La société romaine. Senatus populusque romanus. SPQR. Le Sénat et le peuple romain. C'est par ces mots que commencent tous les édits du Sénat. Tous les documents officiels qui engagent Rome. Car les Romains sont très légalistes et l'esprit de la loi leur importe autant que ses termes. Toute leur vie est conditionnée par la bonne marche des institutions. À partir de la République, le régime atteint son équilibre entre trois types d'institutions, les magistrats, le Sénat, les assemblées du peuple. Les magistrats. Ils détiennent le pouvoir exécutif et sont élus pour un an. Pour être magistrat, il faut avoir exercé précédemment une fonction moins importante dans ce corps, ce que l'on nomme pour un magistrat le cursus honorum, la carrière des honneurs. Il définit les postes successifs à occuper pour s'élever dans la hiérarchie. Leur succession, chacun pour un an, est obligatoire. Les Romains se méfiant des ambitieux en quête du pouvoir trop rapidement, le cursus honorum leur apprend la patience, en même temps que les règles de la vie politique. Le futur dirigeant devait suivre les étapes suivantes et occuper les fonctions correspondantes. Les tribuns de la plèbe sont les représentants du peuple, par opposition aux patriciats d'origine noble. Ils exercent à 10 le pouvoir, mais un seul peut s'opposer à tous et annuler leurs décisions. Il faut être âgé de 27 ans au moins. Ils sont intouchables et peuvent bloquer l'action de tout magistrat et du Sénat par le droit de veto. Le veto qui veut dire « je refuse ». Les questeurs, comptables du trésor public, collectent les impôts. Il faut avoir au moins 31 ans pour faire partie des 40 questeurs du trésor conservés dans le temple de Saturne à Rome. Les édiles sont chargés de la voirie, de l'approvisionnement de Rome, des jeux publics à organiser et de la police. Il faut avoir au moins 37 ans pour postuler à l'édilité. Les prêteurs ont un rôle essentiellement juridique. Ils seront au nombre de 8 sous Sylla au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le prêteur urbain s'occupe des litiges entre citoyens romains, son rôle peut être aussi militaire et il porte le titre d'impérator d'une armée, général en chef. Le prêteur pérégrin s'occupe des litiges entre un étranger et un citoyen romain. Le terme consul signifiant « ceux qui vont ensemble », les consuls, au nombre de 2, sont les magistrats suprêmes de la République. Il faut être âgé d'au moins 42 ans et avoir exercé au moins les fonctions d'édile puis de prêteur. Ils convoquent et président l'assemblée aristocratique, le Sénat et les assemblées populaires, les comices. Ils détiennent l'imperium, le pouvoir de lever les armées. Ils donnent leur nom à l'année de leur mandat. On dit alors qu'ils sont consuls éponymes, qui donnent son nom. Le proconsul est le gouverneur d'une province attribuée au consul après son année d'exercice. Le but était d'user de son influence pendant le consulat pour se faire attribuer par le Sénat une riche province largement exploitée ensuite. Le proconsulat permet d'éteindre ses dettes et de revenir à Rome avec une solide fortune. Le censeur est la plus honorifique des magistratures romaines. Elle est confiée à 2 anciens consuls, élus tous les 5 ans pour une durée de fonction de 18 mois. Ils ont pour tâche de recenser et classer les citoyens romains selon leur fortune afin de préparer les élections. Ils dressent la liste des sénateurs, l'album sénatorial. Leur pouvoir est absolu. Nul ne peut contester leurs décisions.
N'oubliez pas, la loi des 12 tables. L'égalité entre gens du peuple, plébéiens et patriciens ayant une noble ascendance, fut un long combat. En 494 avant Jésus-Christ, a lieu le retrait sur l'Aventin. Les plébéiens quittent Rome, s'installent sur la colline de l'Aventin et décident de ne plus revenir. Les patriciens les traitent trop mal, ne leur reconnaissant que des devoirs, aucun droit. Rome, ville ouverte et déserte. Les patriciens constatent vite qu'ils ne peuvent assurer leur noble mode de vie sans les plébéiens. Ils leur accordent donc des magistrats, les tribuns de la plèbe. Tout rentre dans l'ordre pour l'instant. Une nouvelle menace de révolte suffit. Entre 451 et 449 avant Jésus-Christ, 10 anciens consuls, les décemvirs, rédigent la loi des 12 tables. Désormais, l'égalité devant la loi entre plébéiens et patriciens est la règle. Toutefois, le consulat est réservé aux seuls patriciens jusqu'en 336 avant Jésus-Christ, et les mariages entre les deux groupes restent longtemps interdits.
Le Sénat. C'est la Haute Assemblée à Rome. Ses membres s'y succèdent, souvent de manière héréditaire, mais on peut y être nommé. Seule une grave faute peut conduire à l'exclusion. Être sénateur, c'est aussi être riche. Il faut normalement posséder 1 million de sesterces sous l'Empire. En cas de problème, un autre sénateur ou un banquier peuvent servir de garant, ce qui arrive souvent. Un sénateur ne peut recevoir de salaire. À l'origine, exclusivement aristocratique, le Sénat s'ouvre aux plébéiens. Les anciens prêteurs et consuls y sont nommés de manière automatique, sauf manquement très grave. Le nombre des sénateurs ne cesse d'augmenter, passant de 300 à 600, puis à 900 sous César et enfin à 2000 sous Constantin au IVe siècle. Les décisions du Sénat, les senatus consulte, doivent être appliquées sans discussion. Ils votent les finances, dirigent la diplomatie, donnent des ordres aux consuls. Sous l'Empire, le Sénat devient une chambre d'enregistrement aux ordres de l'empereur. Les sénateurs sont reconnaissables à la bande pourpre qui orne leur toge, le laticlave. On les nomme perconscrits et le président du Sénat porte le titre de princeps senatus, à comprendre comme le premier d'entre ses pairs, les autres sénateurs, le premier à prendre la parole lors des discussions sénatoriales.
Le saviez-vous ? Voter avec ses pieds. Cette expression en intrigue plus d'un. Elle vient d'une pratique du Sénat romain. Tous les sénateurs n'avaient pas le temps de s'exprimer pendant une discussion, et nombre d'entre eux, maîtrisant mal l'art de la parole, si essentiel à Rome, préféraient se taire pour éviter le ridicule. Ils attendaient donc que les ténors de l'assemblée aient fini d'exposer leur point de vue. Puis, à pied, ils allaient se placer derrière celui avec lequel ils étaient d'accord. On pouvait alors commencer à compter les voix. Ces sénateurs qui ne s'exprimaient pas étaient appelés pédarii, ceux qui vont à pied, car ils votaient avec leurs pieds.
Les comices ou assemblées du peuple. Il existe 3 types de comices. Les comices curiates qui confirment les prêtres dans leurs fonctions, les comices tributes qui élisent les quaeteurs tribuns de la plèbe et qui votent des textes ayant valeur de loi, les comices centuriates dans lesquels les citoyens sont répartis selon leur richesse, seuls les plus riches votant. Ils tiennent lieu en matière judiciaire de cour d'appel. Ils représentent le peuple en armes, élisent les 10 prêteurs, les 2 consuls et les 2 censeurs. Les catégories sociales de l'ordre équestre à la plèbe. Pour être citoyen romain, c'est-à-dire jouir des droits politiques, il faut être né libre. Esclaves et affranchis en sont exclus. Et né d'un père citoyen sur le territoire romain proprement dit. D'après la tradition, la base de l'organisation de la société s'appuie sur la division et la répartition des citoyens en classes sociales. Au sommet de la hiérarchie se trouve l'aristocratie, qui est divisée entre les patriciens, dont les membres siègent au Sénat, les descendants des 100 familles ayant eu des patresses, ancêtres dans le premier Sénat créé par Romulus, les grands propriétaires terriens, les chevaliers qui participent le plus directement à l'essor des échanges et de l'économie monétaire. Ils bénéficient de certains privilèges. Pour les sénateurs et les chevaliers, un anneau en or et une large bande de pourpre, sénateurs ou étroites, chevaliers sur leur tunique, et des sandales en cuir brut. Pendant l'Empire, l'ordre équestre devient une caste de fonctionnaires nobles. La plèbe comprend l'ensemble de tous les citoyens qui se divisent en 2 classes, celles dont les membres forment l'infanterie lourde et les infraclassem, classes inférieures qui servent comme fantassins légers. Constituant la majeure partie des légions et de la population, cette classe sociale sera la plus durement touchée par les guerres. Les esclaves. Ils proviennent essentiellement des conquêtes romaines, une partie des vaincus étant réduite en esclavage. Le droit romain refuse à l'esclave le statut de personne. Il appartient à son maître comme une maison, un champ et du mobilier. Plus les légions remportent de victoires, plus la République puis l'Empire étend son territoire, plus il y a d'esclaves sur les marchés. Ils représentent entre 40 et 50% de la population. Ils sont si nombreux que leurs maîtres en ont eu peur et que la loi pour eux devient de plus en plus dure. Ainsi, si un propriétaire meurt assassiné, peu importe que l'assassin soit ou non un esclave, tous ses esclaves seront mis à mort, même ceux qui se trouvaient au moment du crime sur une propriété à des centaines de kilomètres de là. En cas de procès, les esclaves sont systématiquement torturés, car dans l'esprit d'un Romain, ils ne peuvent que mentir. En revanche, un magistrat qui ferait torturer un citoyen romain sans l'accord des consuls, puis plus tard de l'empereur, serait exécuté.
N'oubliez pas, la révolte des esclaves. Rendue célèbre par la littérature et le cinéma, Spartacus était un esclave gladiateur au Ludium de Capoue. Entre 73 et 70 avant Jésus-Christ, il entraîne avec lui plus de 150 000 hommes, occupe et pille tout le sud de l'Italie. En 72, le Sénat envoie Crassus à la tête de 6 légions. Il bat une partie des hommes de Spartacus. Le reste est écrasé par les troupes de Pompée, revenues en hâte d'Espagne. Pour éviter toute nouvelle révolte, 6 000 prisonniers sont crucifiés entre Capoue et Rome, le long de la route appelée Via Appia. L'exemplarité de la peine dissuada toute révolte servile d'importance par la suite.
Rome en guerre. Rome n'échappe pas au sort des puissances de l'Antiquité. Son expansion se fonde sur sa supériorité militaire. Puis vient un moment de son histoire où les conquêtes deviennent sa raison d'être et la source la plus sûre de son pouvoir. Désormais, les armées sont l'essence même de Rome. Les généraux font et défont le pouvoir véritable. Avec la fin de la République, il revient même aux troupes d'élire l'empereur de leur choix, provoquant de fréquentes guerres civiles quand les légions choisissent des candidats différents en divers points éloignés de l'Empire. Terreur des ennemis de Rome, la Légion est un corps militaire rigoureusement organisé, fort de 4 000 à 4 200 hommes, puis de 6 000 au IIe siècle avant Jésus-Christ. À l'origine, une Légion compte 30 manipules et une manipule 60 à 80 hommes.
Le saviez-vous? 10 de Der. C'est le plus terrible châtiment pour les légions romaines en cas de révolte, d'insubordination ou de lâcheté au combat. Tous les hommes de la légion sont rassemblés, soit 6 000 hommes. Les officiers passent et en désignent 1 sur 10, d'où le nom de décimation. Tous les désignés sont aussitôt exécutés. Très spectaculaire, cette exécution massive et redoutée est très rarement pratiquée. Contrairement à une idée reçue, le triomphe n'est pas accordé à tous les généraux victorieux. Seul le Sénat l'accorde, à l'issue d'une ou plusieurs campagnes menées avec succès. Il arrive aussi que les sénateurs se fassent prier. Pompée dut camper avec ses légions plusieurs mois hors de l'enceinte sacrée de Rome, le Pomoerium, avant de se voir accorder le droit d'y entrer en triomphateur. Le triomphe est une procession, des portes de Rome jusqu'au temple de Jupiter sur le Capitole. Les soldats précèdent et suivent le char du général honoré. Vêtu de pourpre, le visage passé au rouge, couronné de lauriers, il est monté sur un char conduit par un esclave, attelé de 4 chevaux. L'esclave n'est pas seulement là pour conduire le char. Il murmure à l'oreille du triomphateur « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme », afin de l'inciter à avoir le triomphe modeste. Expression que nous avons conservée. Viennent ensuite les vaincus, promis à la mort ou à l'esclavage, et des chariots sur lesquels sont exhibés les fruits des pillages. Statues, objets précieux, animaux exotiques, destinés au trésor de Rome. À l'issue de la procession, le triomphateur dépose sa couronne de laurier en offrande à Jupiter, puis reçoit les félicitations du Sénat, auquel il offre un banquet. À l'origine, le triomphe s'arrêtait là. Mais les conquêtes de Rome se font plus nombreuses, les butins plus riches. Il devient d'usage que le triomphateur offre des jeux au peuple.
la religion romaine. Les Romains sont des terriens à l'esprit pratique. Les dieux qui vivent dans le monde, et non à l'écart, sont présents partout et il importe avant tout de ne pas les mécontenter. Pour cela, il convient de les honorer en respectant des rites comme le sacrifice. C'est un donnant-donnant. Les dieux reçoivent leur dû et évitent aux hommes les problèmes, soit personnels, soit pour Rome et la République, puis l'Empire. Il n'y a aucune vie après la mort, la bonne entente avec les dieux revient à bien vivre ici et maintenant. La maladie, la mort, la guerre surviennent quand les rites n'ont pas été correctement accomplis. Les Romains vivent donc avec les dieux dans la vie quotidienne et sont toujours soucieux de s'en concilier le plus grand nombre possible. D'un côté la religion civique obligatoire, les grands dieux protecteurs de Rome, comme Jupiter, le culte rendu aux empereurs devenus dieux après la mort. De l'autre, la liberté pour tout un chacun d'adorer qui il veut, comme il le veut. D'où le succès des cultes orientaux à Rome. Aux Romains des premiers siècles de notre ère, le christianisme posera ainsi un problème particulier. D'une part, il ouvre la perspective d'une vie après la mort et tente les Romains, mais d'autre part, pourquoi ne garder qu'un seul Dieu quand tant d'autres peuvent vous apporter chacun quelque chose?
Le saviez-vous? Les murs à mort. Les Romains, s'ils n'envisagent pas de survie de l'âme après la mort, ou d'au-delà au sens chrétien du terme, redoutent les morts. Sauf les assassins et les prostituées, personne ne se serait rendu dans un cimetière de nuit. Car l'esprit d'un mort peut être irrité. Incapable de faire le bien, il peut nuire. Soit les rites funéraires n'ont pas été convenablement accomplis, soit le mort ne supporte pas son état et en veut au vivant, qui profite des joies de l'existence pour lui à jamais enfui. Il devient alors les murs, esprit malfaisant, mort vivant, vampire, loup-garou, goul, femme se nourrissant de chair humaine, de préférence celle des enfants. Bref, tout l'arsenal de la terreur hollywoodienne est déjà prêt à servir Rome.
Le panthéon romain. Il faut distinguer deux types de dieux, les dieux populaires et les dieux principaux. Les premiers sont près de 30 000 à Rome. Les Romains pensaient en effet qu'un dieu se trouvait derrière chaque chose ou chaque objet, ce qui explique ce nombre important. Parmi les dieux les plus populaires, il faut citer les Larès des carrefours. En leur honneur a lieu une fête au mois de janvier, les Compitalia. Parmi les seconds, il faut citer Flore, déesse des jardins, Jupiter, le dieu du ciel, Neptune, le dieu de la mer, Saturne, le dieu des semailles, Junon, épouse de Jupiter, déesse de la fécondité, Vulcain, le dieu du feu, Mars, le dieu de la guerre, Minerve, déesse de la sagesse, Vesta, déesse du foyer.
N'oubliez pas, la triade capitoline. Ce sont les trois divinités les plus importantes du culte civique. Jupiter, roi des dieux, dieu de la foudre, fait régner ordre et justice dans le monde des hommes et celui des dieux. Ses attributs, la foudre et l'aigle. Junon, reine des dieux, déesse du mariage, protège les épouses et les nouveau-nés. Ses attributs, le paon et la grenade. Minerve, déesse de la sagesse, des arts, des sciences, a pour attribut la chouette et l'olivier.
La religion dans la vie quotidienne. Particulier à chaque famille, le culte des dieux domestiques est célébré par le pater familias. Les dieux Larès sont les dieux protecteurs de la maison. Les pénates, dont le nom vient de pénus, le garde-manger, veillent au ravitaillement et aux provisions. On leur offre des sacrifices modestes sur l'autel domestique. Quant aux mânes, ce sont des divinités malfaisantes associées aux âmes des morts. Pour s'en protéger, il faut les honorer régulièrement à chaque anniversaire du défunt. En fait, les Romains ne se préoccupent que peu du problème de la survie après la mort. Ils ne croient pas non plus à la récompense ou à la pénalisation selon que les actions ont été bonnes ou mauvaises. Les morts végètent dans un monde inférieur et pour qu'ils ne reviennent pas, on leur fait des offrandes. C'est seulement sous l'influence de la philosophie grecque que la conception d'un au-delà commence à se propager parmi les membres de la société aristocratique. Les relations entre les dieux et les hommes prennent un caractère de contrat, car les Romains attendent de leurs dieux des faveurs immédiates, bonne récolte ou victoire. Très superstitieux, les Romains sont très attentifs à tous les signes qu'ils interprètent comme l'expression de la faveur ou de la colère des dieux. Cette attitude renforce encore le formalisme d'une religion où la peur et la crainte tiennent une place importante. Encore davantage que chez d'autres peuples, la religion chez les Romains est la religion de la cité, car toute la vie politique est liée à des rites, à des cultes. Les magistrats sont aussi des prêtres. César fut grand pontife et Cicéron augure. Ce dernier définit la religion comme la justice envers les dieux et envers les morts. Justice est à traduire ici par obligation morale réciproque. Les hommes rendent le culte dû aux dieux, accomplissent les rites prévus pour les défunts et, en échange, divinités et morts les laissent en paix.
Le saviez-vous ? Croire en son foi. Les haruspices sont des devins qui prédisent l'avenir ou décident si une circonstance est favorable ou pas, en explorant les entrailles des animaux sacrifiés, particulièrement le foie. L'empereur Claude les organise en un collège de 60 haruspices. L'origine de cette pratique vient des Étrusques. Il existe des modèles, reproductions en pierre en forme de foie, avec veines afin d'apprendre aux futurs haruspices à interpréter le dessin, la taille et les principaux aspects de l'organe. Cicéron, qui ne les apprécie guère, confirme leur réputation de charlatanisme en affirmant que deux haruspices ne peuvent se croiser et se regarder sans éclater de rire. Aucune décision importante, aucun acte essentiel ne peut se prendre ou se faire sans consulter le calendrier. Trois types de jours le rythme. 235 jours par an sont fastes. 109 jours par an sont néfastes. Environ 10 jours par an sont neutres. Attention, néfaste ne signifie pas nuisible, dangereux. Il s'agit par exemple de jours consacrés aux dieux. Tout citoyen préférant continuer à s'occuper de ses affaires encourait leur colère. C'est en ce sens que le jour concerné serait néfaste, pas en lui-même. Le saviez-vous ? Femmes au foyer. Choisies par le grand pontife alors qu'elles sont encore des enfants, les Vestales sont 7 prêtresses chargées du culte de la déesse du foyer Vesta. Elles doivent en permanence entretenir le feu sacré. Leur service dure 30 ans, pendant lequel elles doivent rester vierges. Elles sont ensuite libres de se marier ou de continuer à servir la déesse. Obligatoirement de famille noble, elles doivent être sans défaut, physique ou moral. Seules femmes du monde romain dans ce cas, les Vestales sont émancipées de l'autorité paternelle, libres d'aller et venir comme elles l'entendent. Tous les magistrats leur cèdent le pas. Rencontrant par hasard un condamné à mort, elles peuvent le gracier. Leur personne est inviolable et sacrée. Mais la perte de la virginité est punie d'une mort atroce. La Vestale est enterrée vivante avec une lampe, de l'eau, du lait, de l'huile. L'amant est battu à mort. Si le feu sacré s'éteint, la Vestale est battue de verges jusqu'au sang et peut être exécutée.
Le droit, un héritage romain. Le droit civil romain, compris dans les recueils de lois faits et publiés sous la direction de Justinien, empereur byzantin de 527 à 565, constitue le code. L'expression « droit civil » est employée par les Romains pour désigner les lois applicables seulement aux citoyens romains par opposition à l'expression « droit des gens », nom que l'on donne aux lois relatives aux étrangers. Le droit civil se divise aussi en droit public concernant la Constitution et le gouvernement et en lois privées se rapportant aux relations des citoyens entre eux. Par une ordonnance spéciale, Constantin détermine ce qui, dans les œuvres des anciens juristes, devait avoir une autorité particulière et ce qui ne devait plus être pris en considération. Au siècle suivant, en 426, Théodose II promulgue une ordonnance semblable connue sous le nom de Code théodosien et destinée à l'Empire d'Orient, mais qui ne tarde pas à être aussi adopté dans celui d'Occident. Il comprend le droit civil, plus exactement nommé droit privé, qui règle les rapports des particuliers entre eux et dans lequel rentrent toutes les lois dites civiles, les lois commerciales et celles de la procédure civile. Le droit criminel ou droit pénal, le droit public qui règle les rapports de l'État avec les particuliers et dans lequel se rangent les lois constitutionnelles, les lois et règlements administratifs.